Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Débrief l'actu ce soir, comme chaque soir d'ailleurs, avec Claudia Cohen qui est là. Salut Claudia.
Salut François.
Ravi de te retrouver sur le plateau de Tech&Co. Tu es journaliste au Figaro, bien sûr.
Toujours.
Ça n'a pas bougé.
Non.
Et à tes côtés, eh bien, c'est Guillaume Grallet qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Salut Guillaume.
Salut François.
Très heureux de t'accueillir. Guillaume Grallet qui est journaliste au Point, spécialisé dans les nouvelles technologies depuis quelques années maintenant. Le temps passe, mon
ça
cher
passe
Guillaume.
Ouais.
Et puis Frédéric Simotel, mon fidèle camarade.
Le temps passe aussi.
Le temps passe aussi, voilà, effectivement. Est-ce que tu vas éternuer ce soir, mon cher Fred ?
Je vais essayer de me retenir.
Oui, parce que pour tout vous dire, hier, c'était un festival d'éternuement de Frédéric Simotel. Comme quoi, ce n'est pas que de l'IA,
non, c'est, de la,
c'est aussi un humain.
C'était de la toux, oui.
C'était de la toux.
Voilà, c'est vrai que tu l'as mis seul là-bas, encore.
Voilà, trop loin. Il est dans une zone où il est totalement désinfecté.
C'est
pour ça. Bon, trêve de plaisanterie, on vous raconte un petit peu notre vie, mais l'actualité est très intéressante ce soir. Dans quelques instants, donc, on parlera de ce premier anniversaire de Threads, lancé à grand renfort de com' hein, l'année dernière. Hein. Mark Zuckerberg voulait, en fait, une réponse à Twitter. Un an après, qu'est-ce que ça donne ? On verra avec les chiffres. On parlera aussi d'un nouveau réseau social. Est-ce que vous avez entendu parler de NoPlace, les amis ?
Ce matin.
Mais voilà. C'est un réseau social qui est inspiré de MySpace et qui fait un carton. Il n'y a pas d'algo, visiblement. Enfin, voilà, on reviendra sur ce succès impromptu. On reviendra sur Qtay et sur Moshi. On en a beaucoup parlé hier soir. Mais je voulais avoir l'avis de Guillaume Grallet puisque Guillaume était à la présentation de Moshi hier. On évoquera aussi DJI qui... évidemment, sous la contrainte de la réglementation américaine, vous le savez, ne peut plus vendre de drones, se retrouve un petit peu étouffé sur le marché occidental et a décidé de se diversifier. C'est très intéressant et très intelligent, un peu comme Huawei finalement. Et vous savez quoi ? Maintenant, DJI va faire des vélos électriques. C'est dingue hein, quand même. Hein. Mais ils se servent de toute la technologie qu'ils ont, on va dire, apprise avec les drones, de la gestion de l'énergie, pour mettre ça, en fait, dans les vélos électriques, et puis les moteurs électriques, etc. etc. On en parlera tout à l'heure. Mais pour débuter, donc, j'aimerais qu'on revienne sur le trafic Internet français. C'est vrai que chaque année, on a la chance de pouvoir commenter cette étude de l'ARCEP, qui a pour... analyser le tuyau de l'Internet des Français. Voilà. Et je le disais tout à l'heure, alors il y a 15% de cet Internet qui est squatté par Netflix, mais ça, ce n'est que Netflix. Quand on rajoute, en fait, tous les GAFAM, on arrive, Fred, à, je crois, quasiment 50%.
Oui, c'est ça.
C'est énorme. Je sais pas ce que... Enfin, quand on voit ces chiffres, on se dit que véritablement, voilà, 50% de l'Internet provient des États-Unis, finalement. Je trouve que c'est vertigineux. Qu'est-ce que tu en penses, Claudia ?
Oui, c'est assez fou. On a vu... Alors, il faut dire quand même que chaque année, les résultats se ressemblent beaucoup. Depuis, en fait, l'arrivée des plateformes de streaming vidéo, ceux qui occupent... Il y a Netflix, ceux qui occupent beaucoup l'espace, évidemment, c'est Disney+. Après, t'as les vidéos, t'as Google, etc.
Google avec YouTube, bien sûr.
Avec YouTube, bien sûr, on voit qu'il y a une consommation de plus en plus importante. Et je pense que sur ce point, ça alimente tout à fait le discours et la volonté depuis des années des acteurs du secteur des télécoms de dire, en fait, vous qui finalement prenez toute la bande passante, maintenant il faut nous payer un petit peu pour qu'on puisse investir en fait dans des infrastructures avec un réseau de plus haute qualité. Pour l'instant, donc ça a été un appel lancé par les télécoms, oui. Comme Orange par exemple, cité en France, après il y en a plein d'autres en Europe, depuis des années.
Et ils même ont aux pas... États-Unis, AT&T, il y a un mois...
Aux États-Unis, pardon, évidemment.
Aussi,
Ils n'ont pas tellement été écoutés pour l'instant. L'idée, c'était d'avoir une taxe Netflix, en fait. Parce qu'en fait, plus les gens regardent des vidéos, plus on regarde du streaming, et plus, finalement, il y a un besoin énorme en réseau. Alors, eux, du coup, vu qu'ils sont quand même pointés du doigt dans chaque étude Netflix, bon, évidemment, ils n'en veulent pas de cette taxe, et ils disent qu'ils font tout pour améliorer, pour compresser l'énergie, faire
ils
en sorte
des efforts,
que...
je crois.
Ils font de vrais efforts, mais de toute façon, ils sont obligés de faire des efforts.
C'est intéressant. Guillaume, là-dessus.
Ouais, non.
Cette taxe, ça fait des années qu'on en parle.
Ouais, ça fait des années qu'on
en parle. Et on la voit pas arriver.
Ouais, c'est malheureusement, quand on voit le graphique que vous avez montré, c'est un peu une double faillite. C'est-à-dire qu'on voit bien, malheureusement, que les Dailymotion, etc., n'arrivent pas à s'imposer. Et puis surtout que les services de VOD, qui ont été lancés par les FAI, ont eux-mêmes du mal à s'imposer. Comme le disait Claudia, on aimerait, en fait, que ces géants d'Internet contribuent davantage aux infrastructures, mais on n'en prend pas véritablement le chemin aujourd'hui.
Mais c'est un peu comme le coucou, vous savez, cet oiseau qui va squatter les nids des autres. C'est un peu ça, finalement. Hein, c'est géant américain du divertissement.
Moi, dans le rapport, j'ai noté un petit alinéa, là, c'est que la croissance...
ralentit.
Représente, mais la croissance ralentit.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croissance trafic en 2023, elle est de plus 8%, alors qu'en 2022, elle était de plus 20%. Alors, la première chose, on se dit, oui, 2022, on sortait du Covid, on était à fond les cours interactifs, le streaming, le télétravail, etc. Et puis, quand on regarde un peu plus près, alors l'ARCEP dit, oui, mais attention, il y a aussi moins d'abonnés sur les plateformes de streaming, donc ça joue. Alors, les partages de comptes, Netflix, ont été retirés, donc évidemment, moins d'abonnés, moins de trafic. Et puis, il y a autre chose aussi qu'on regarde au niveau technique et on se rend compte que, ben oui, la compression vidéo, ça marche plutôt bien. Hein, ouais. On réussit à... Alors là où on divisait le contenu par deux, aujourd'hui on réussit à diviser le contenu par cinq. Hein,
Avec la même qualité d'image, c'est ça. Imaginez un peu les économies que ça
peut faire à Netflix. L'optimisation des trafics, aujourd'hui, on fait beaucoup plus. Alors du cloud, mais je vais dire du edge, parce que comme ça on comprend un peu techniquement, mais on rapproche un peu les serveurs des utilisateurs, alors pour plus de facilité, mais du coup ça fait moins de réseaux qui circulent un peu partout. Donc voilà, il y a l'optimisation des flux. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi de la part des opérateurs, des opérateurs de tous ces fournisseurs d'accès, pour réduire un peu le trafic qui circule, et arrêter d'avoir des serveurs à droite, à gauche qui vont chercher du contenu je ne sais où. On essaie beaucoup de dupliquer un peu plus proche de l'utilisateur. Et là, on voit qu'il y a un vrai travail qui est fait. Alors, c'est un travail aussi qui est lié à l'environnement. Je pense que tout ce qui est durabilité, on essaie de consommer un peu moins. Donc, comment on fait? Mais il y a vraiment des avancées technologiques aussi sur ce sujet-là.
Il y a quelque chose de très intéressant aussi dans le rapport de l'ARCEP sur ce sujet. Il disait que ChatGPT était en train de devenir la porte d'entrée d'Internet. On va simplifier, on va dire, le nouveau type de moteur de recherche. Et en fait, maintenant, en tout cas, il constatait que les derniers mois de 2023, en tout cas, les Français allaient de plus en plus chercher en fait quoi regarder, chercher leurs idées sur le chatbot plutôt que sur Google. Et du coup, ça pose de vraies questions sur l'avenir aussi, peut-être des moteurs de recherche plus globalement.
Bon, et puis ce qu'on peut gagner en fait en termes de consommation énergétique grâce à la compression sur les vidéos, eh bien les mêmes géants d'Internet qui sont aussi les grands acteurs de l'IA le repèrent. On se demande si Google va pouvoir respecter ses engagements en termes environnementaux, etc., à cause de la consommation énergétique.
Oui, la décarbonation, objectifs vont être compliqués à tenir,
s'il y a un miracle technologique.
Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, on le voit pas,
ce
miracle technologique.
Ouais, Google dit en 2030, on sera neutral, zéro émission. Mais derrière, on voit qu'ils rachètent beaucoup de crédits d'énergie renouvelable. Alors, on voit des. Alors, ça, c'est toujours ce qu'on dit, mais on attend de voir concrètement ce que ça va donner. Parce qu'on dit Microsoft est en train de voir comment ils pourraient installer des SMR, donc des petits. Des petits, c'est quand même la taille d'un terrain de tennis, mais des petites centrales nucléaires plus proches de leur data center. Donc on voit, ils ont quand même tous cette... Et on le disait, souviens-toi, Tim Cook, il y a 3-4 ans, il a deux obsessions. C'était au-delà des iPhones, qu'il faut que ça marche, etc. C'était la santé et les énergies renouvelables, c'était ces deux trucs.
Ouais, ouais.
Et Satya Nadella, il est un peu pareil, il a cette obsession d'énergie renouvelable, parce qu'ils se rendent compte quand même, puis c'est des gens, ils vivent sur la planète, ils sont pas, ils savent qu'ils sont pas éternels, mais enfin, ils y pensent quand même un petit peu.
Après, ils sont quand même beaucoup guidés par les régulations qui sont mises en place, et c'est vrai que les différents changements politiques qu'on peut voir au Parlement européen il y a quelques semaines, qu'on pourra voir peut-être aux États-Unis, je pense...
Petit, pour l'instant, tant qu'on leur dit, vous êtes à 3-4% de l'émission mondiale. Bon, personne s'affole. Par contre, c'est vrai que si ça commence à monter à 8, 10, 12, 15%, on va commencer à dire oui, les gars, là, attendez vous.
Alors, un peu. Ce qui est intéressant aussi avec l'IA générative, c'est que ça va peut-être aussi bouleverser un peu cette carte de ce réseau Internet français et un peu mondial, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la voix est en train d'exploser en IA générative. Et ça. Non, pas tant que ça, parce que tu parles maintenant et tu remontes aussi. Et c'est rigolo parce que à Vivatech, j'ai rencontré le directeur de l'innovation d'Orange, que tu connais bien, et qui nous expliquait qu'ils voyaient ça arriver, en fait, sur leur réseau 4G et 5G.
Oui, mais la voix en poids, c'est beaucoup moins que l'image.
Ouais, mais avant, elle n'existait pas, cette voix. Et ça fait quand même de la data supplémentaire qui part sur les réseaux. Je suis un peu d'accord, mais pour eux, c'était un vrai sujet. Et il fallait qu'ils mettent à jour les réseaux, justement, pour encaisser toutes ces requêtes qui sont faites par la voix.
C'est une sorte de priorité, du coup, peut-être qu'ils sont.
Peut-être.
La voix doit être.
Bon, en tout cas, toujours intéressante, cette enquête de l'ARCEP. Allez, on remonte un an en arrière. On était tous excités comme des puces avec le nouveau réseau social de Meta, Threads, qu'on n'a pas pu tester tout de suite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les Américains ont tout de suite pu, évidemment, s'inscrire. Mais nous, il a fallu qu'on attende, je crois, la rentrée 2023 pour pouvoir accéder,
c'est
en fait.
C'est pas décembre ? C'est pas décembre 2023 ? Enfin bon.
Ouais, c'était fin d'année.
Ouais, je vais regarder. C'est peut-être plus tard, en effet. Mais en tous les cas, ça y est, on a tous maintenant Threads. Mark Zuckerberg ne s'en est jamais caché. Hein. Il voulait créer un peu le contrepoids à X, hein, donc anciennement Twitter, et avoir un réseau qui ressemble à X, comme deux gouttes d'eau. Hein. Vous pouvez poster, vous pouvez reposter, vous pouvez liker, vous pouvez répondre, vous pouvez poster des vidéos, etc. Mais avec une particularité, sans avoir le côté un peu anxiogène de Twitter et avoir des infos qui partent n'importe où, n'importe comment, et qui disent n'importe quoi. C'était ça un peu le principe de Threads.
Pas de polémique, voilà, les trucs plutôt gentils.
Voilà, et donc, Adam Mosseri, qui est le grand patron des réseaux sociaux de chez Meta, a annoncé ce chiffre de 175 millions. Alors on se dit, qu'est-ce que c'est que 175 millions ? En fait, ce sont 175 millions d'utilisateurs actifs tous les mois sur Threads. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre ?
Non, bah c'est sûr qu'on est un peu déçus parce que ça n'a pas vraiment cartonné, cette fameuse pluralité hein, sur ces messageries instantanées. On l'a pas, on l'a espéré un moment avec Mastodon, mais on s'est vu que c'était, même s'il y a la vraie décentralisation très difficile à utiliser, même si ça c'est un peu plus facile avec les hashtags. Blue Sky, qui était aussi en accès réservé, c'est-à-dire qu'il fallait être invité, et qui avait été initié par Jack Dorsey, qu'on a vu à la création de Twitter, avait pas mal de promesses également, mais Blue Sky, ça fonctionne pas vraiment non plus. Et on n'a pas encore cette pluralité. En fait, je m'en suis rendu compte cette semaine parce que j'ai appelé un mathématicien qui s'appelle David Chavalrias, qui est directeur de recherche au CNRS et qui s'est intéressé à la manière dont ce qu'on attribue aux bots de désinformation russes vont sur les réseaux sociaux. Et il a fait une cartographie absolument géniale sur Twitter sur les thèmes qui vont créer le plus de discord. Et en fait, il m'a dit, je me suis intéressé à Twitter parce que même si moi-même je suis sur Mastodon, je suis sur Blue Sky, c'est quand même chez Twitter que continuent à s'exprimer les leaders d'opinion, que là où se fait se crée souvent l'opinion.
Oui, le pari de Thread, c'était quand même qu'en face le gros, alors là X il revendique Elon Musk 600 millions d'utilisateurs actifs mensuels, que X allait un peu s'effondrer parce que les politiques, parce que les marques aussi, parce que les utilisateurs allaient partir. C'est complètement faux, là on le voit avec l'actualité politique effervescente partout dans le monde, tout se passe sur Twitter, même d'un point de vue sportif, aussi actualité sportive, toutes les conversations, si on se réfère à la France, sur Roland Garros, c'était quand même sur Twitter, là les JO, ça se joue aussi sur Twitter, du coup, enfin sur X, pardon, du coup il y a cette idée que, en fait, quelle est finalement l'identité de Thread, parce que le fondateur a parié sur une image, disons, plus consensuelle, qui allait plaire. Or, on se rend compte que, malgré ce que les gens disent, on n'aime pas forcément cette consensualité. Et puis aussi en termes de possibilités de fonctionnalités, il n'y a pas non plus grand chose de plus que sur X, donc il manque une identité et il manque aussi des fonctionnalités et voilà. Et moi ça m'étonne aussi de voir plus généralement dans les réseaux sociaux, on n'a pas vu encore, peut-être on verra, mais de quelle façon l'IA générative pourra transformer l'expérience en fait qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. On ne voit pas encore. Et moi, je pense que c'est là où il y a vraiment un truc à jouer, quoi.
Déjà, ils ont ouvert la porte plus vite puisqu'on était lié à son compte Instagram. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de pub, c'était facile à utiliser, c'était plus de 500 caractères.
Il n'y a toujours pas de pub, hein, d'ailleurs.
Oui, toujours pas de pub. C'était 500 caractères, on pouvait mettre de l'image, de la vidéo, tout ce qu'on voulait. Ils ont quand même eu un petit souci. Comme par hasard, c'est le groupe Meta de confidentialité des données qui a d'ailleurs retardé un peu cette partie-là. Ça, c'est toujours un problème chez Meta. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, faut quand même reconnaître que X Twitter, il s'en sort porte bien et les innovations, ça marche bien. Et alors après, on peut critiquer les contenus, voilà, comment on reçoit un peu son fil d'actu. Bah oui, mais si on a la petite pastille bleue, ben on arrive à avoir du contenu. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit, là on est en plein plongé dedans dans cette campagne politique. Oui, c'est tout se fait que sur X Twitter, hein, ça continue. Donc il a réussi à imposer ça. Et de l'autre côté, X Twitter, ils ont réussi à bien à gérer la chose. C'est vrai qu'on entend moins de polémiques autour de. Alors Elon Musk s'en est un peu éloigné. Enfin, s'en est un peu éloigné. C'est Linda Yaccarino, même si bon, il se frictionne un petit peu, mais en tout cas, c'est elle qui gère ça. Mm-hmm. Lui, il s'intéresse à la technique et tout ça, mais il est beaucoup moins dans les grandes.
Il était à Cannes quand même. Il était à Cannes. Il y a eu le grand raout des publicitaires. Il est venu à Cannes avec ses.
Oui, il a fait un peu la danse du vent.
Voilà, mais d'un point de vue. Moi, ce que je sais, c'est d'un point de vue opérationnel, il donne ses idées, tout ça, mais il est plus en train de dire faut faire tel service, tel truc. Tel... Il a laissé.
Il s'est un peu calmé, c'est vrai.
Il s'est un peu calmé là-dessus, et d'ailleurs, on le voit. Et bon, après, il faut rassurer encore les annonceurs, mais. Oui, il faut voir que ça marche bien, quoi. C'est pas.
C'est vrai, Guillaume, que la puissance de Twitter, elle a pas été trop écornée.
On a eu peur à un moment. Hein, on s'est tous dit que ça allait.
Aujourd'hui, toute l'actualité se fait sur Twitter. Mm-hmm. Dès qu'il y a un clash.
Ouais, non. Et puis je posais encore une fois la question à ce chercheur en information. Il expliquait. Je disais mais pourquoi il n'y a pas des contre-influenceurs qui vont rétablir la vérité, etc. Mais il me disait. Malheureusement, mon étude, elle porte que sur les comptes ou les messages qui sont repostés au moins 5 fois, et qu'une bonne nouvelle ou une nouvelle identifiée comme la plus juste, qui par exemple peut être un peu complexe, eh bien, elle va être beaucoup moins partagée qu'une fake news, malheureusement, aujourd'hui. Quoi. Donc,
Peut-être que ce serait un corner à trouver dans une spécialité, on va dire, vu que c'est pas la politique, vu que c'est pas. C'est, peut-être qu'il y a
des choses à apprendre
sur le divertissement, la culture. Enfin, il y a peut-être des choses à
ouais, visiblement, Taylor Swift est sur Threads, donc c'est quand même.
Mais
il faut bien qu'on l'accueille quand même.
Qui joue un peu ce rôle-là, ouais, Instagram, où tu partages tes.
Oui, si, si.
Voilà, c'est. Après, on le voit
Madame
tous.
Madame Masri, c'est le boss d'Insta.
Non, mais on voit tous déjà, nous, nos messageries, entre notre messagerie pro, perso, en plus perso, si on en a 2-3, on nous communique avec nous sur LinkedIn, on communique avec nous sur Twitter. Enfin, tu vois, si, pareil pour les réseaux sociaux, ça commence à.
Et le problème, c'est que.
Une journée à gérer déjà tout.
Tu l'as dit tout à l'heure, Fred, c'est vrai que Insta et Threads sont véritablement impliqués. Et je sais pas, enfin, moi, je regarde un peu Insta de temps en temps, et souvent, on propose d'aller sur Threads pour commenter l'actu, pour réagir à des posts, etc. Donc il y a aussi on vous pousse à aller sur Threads. Et ça gonfle aussi, je pense, artificiellement l'audience, parce que tu es sur Insta, tu regardes un peu ce qui se passe, sans faire exprès, tu cliques, paf, tu arrives sur Threads. Donc il y a ça aussi.
Ils regardent, alors il faut regarder de près, mais je trouve que les marques, quand elles disent retrouvez-nous sur Facebook, moi, je vois pas souvent Threads. Hein,
non.
Facebook, X, LinkedIn.
Ouais, c'est vrai que c'est pas encore la folie. Hein. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur Threads. On enchaîne sur un autre réseau social qui, lui, est tout frais. Il s'appelle No Place. Et on doit ça, en fait, à une jeune femme qui, en fait, se souvenait que quand elle était ado, elle se servait de MySpace. Et elle aimait bien le côté, un peu, la candeur de MySpace. Voilà, où tu pouvais commenter des petits posts et tout. Enfin, il y avait un côté un peu frais et léger, finalement, de MySpace qui a un petit peu disparu, c'est vrai, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, hein, qu'on parle de TikTok, d'Insta ou de X. Et donc, ce qu'elle a essayé de faire, cette dame, c'est de remettre un peu au goût du jour ce MySpace avec cette appli qui s'appelle No Place. Elle s'appelle Tiffany Zong. Et donc, elle lance ça. Et on se dit, bon, voilà, encore un réseau social. Ouais. Qui va aller sur un réseau social? Eh bien, le pire dans tout ça, c'est que ça cartonne. C'est un réseau social qui est, depuis disponible depuis le 3 juillet et qui est numéro 1 sur l'App Store américain, quand même. C'est fou. Vous avez entendu parler de ce truc-là? De No Place?
Très honnêtement, ce matin, parce qu'on a fait un papier dans le Figaro aussi là-dessus, je pense, comme beaucoup de médias, mais sinon pas tellement. Mais je suis pas sûre, moi, d'être la cible
c'est
aussi
la Gen
du.
C'est la Gen Z, en génération Z, voilà. Donc c'est.
Moi, je suis juste au-dessus, donc voilà. C'est fini pour moi.
Eh oui.
On parlait, Guillaume, de tous ces réseaux sociaux. Encore un.
Ouais.
C'est alors là, il que... y a eu une hype tout de suite, voilà, numéro un sur l'App Store, mais est-ce que ça va durer?
Ouais, on ne sait pas, effectivement. Moi, on a besoin de ce genre de réseau un peu plus cool, surtout en ce moment, où les esprits sont un petit peu échauffés. Mais il y a aussi une autre concurrence dont on n'a peut-être pas trop parlé, mais qui va dans le sens de ce que disait Frédéric, c'est-à-dire qu'on est extrêmement sollicité de toutes parts. C'est le fait que des messageries professionnelles, dites professionnelles, comme certaines de Google, Microsoft, mais aussi Slack, sont de plus en plus présentes dans nos vies. C'est-à-dire que Slack, par exemple, je parlais avec des dirigeants récemment, ils me montraient certaines fonctionnalités qui sont vraiment super intéressantes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un message qui va vous récapituler lorsque vous êtes déconnecté pendant une nuit, bien sûr, mais un week-end, va vous rappeler les messages les plus importants, va vous tenir compte aussi de votre fuseau horaire si vous ou un de vos collaborateurs est en voyage, tenir compte aussi de certains horaires de travail. Donc il y a des choses assez intéressantes, certaines innovations qui reviennent des messageries professionnelles, donc qui vont aussi un peu concurrencer ce genre de messages.
Il y a également ce côté, parce que c'est vrai que ces dernières années, on est tous devenus, l'utilisateur est devenu assez passif sur les réseaux sociaux. Avant, tu postais, tu commentais, tu partageais réellement ta vie. Et là, avec la poussée de plus en plus importante des algorithmes, que ce soit sur TikTok, qui paraissait un peu plus authentique au début, que ce soit sur Instagram, en fait, je sais pas vous, mais moi, les gens autour de moi, plus personne ne poste rien. Et vous avez vraiment
tout le temps
en réception. Et vous avez vraiment tout un univers économique qui est trusté par les publicitaires, par les marques qui envahissent aujourd'hui TikTok, qui envahissent Instagram. Et en fait, la notion même de réseau social, elle disparaît un peu finalement.
Voilà, bon, écoutez, si vous avez un App Store américain, vous pouvez tester.
TikTok devient même parfois le moteur de recherche de certaines générations.
Ouais. Ah mais bien sûr, comme Instagram est un moteur de recherche pour plein de gens. Vous cherchez un resto, un hôtel, il y en a plein qui vont sur Insta et non plus sur Google. Hein. Ce que je voulais dire concernant ce réseau, No Place, c'est que donc il a un côté un peu vintage, visiblement, et c'est un peu comme un gigantesque forum où tous les utilisateurs peuvent en fait publier des messages à l'ensemble des internautes ou dans leur cercle proche, et on peut pas mettre de vidéos, pas de photos, c'est vraiment... Voilà, il y a un côté vintage dans ce truc-là. On va voir si ça va marcher. Bon, écoutez, No Place, ça s'appelle. Pas encore disponible en France. On verra si ça arrive un jour chez nous. Il nous reste 4 minutes. J'aimerais qu'on évoque tous ensemble le gros titre d'actualité d'hier de Tech & Co, la quotidienne. C'était Qtie et l'arrivée de Moshi, qui nous a tous bluffés. Rappelons-le, hein, cet assistant vocal boosté à l'IA avec lequel vous pouvez avoir une discussion impressionnante. Alors pour l'instant, c'est qu'en anglais, c'est pas encore parfait, c'est de la démo. Mais Guillaume, je voulais avoir ton avis et Claudia aussi là-dessus, puisque vous n'étiez pas avec nous hier, on en a beaucoup parlé, mais tu étais à la présentation de Moshi hier. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Bon, alors, il y a plusieurs choses, hein, pour faire très vite, mais je pense que vous en avez déjà beaucoup parlé hier. C'est le côté très ouvert, c'est-à-dire c'est une équipe de passionnés. On a un peu l'impression d'avoir le OpenAI des débuts avec cette équipe, mais qui publie leurs recherches, etc. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ce qui est sympa lorsque j'ai testé Moshi, c'est que côté désagréable, elle va te répondre avant même que tu aies fini ta question. Je pense que c'est pour montrer la latence, mais le manque de latence, l'absence de latence, et ça fonctionne super bien. Et puis il y a plusieurs choses très rigolotes, c'est qu'elle a de l'humour, elle peut adapter son ton. On a vu des démonstrations sur les accents, sur certaines intonations. Ça marche vachement bien. On a envie d'avoir ça en français, mais c'est surtout aussi les discussions avec les chercheurs. Il y a notamment un chercheur qui s'appelle Neil, son prénom, qui a beaucoup travaillé dans l'audio. Je sais qu'ils ont beaucoup de projets aussi dans la vidéo, peut-être à terme dans la médecine, mais ils veulent garder ce côté très ouvert, très, très labo, un petit peu comme DeepMind avec Isomorphic Labs, mais en restant véritablement ouvert. Je trouve ça vraiment...
C'est leur ADN. Hein.
C'est leur ADN. Et on a vraiment l'impression que ça les habite. Et il y a eu un accueil assez formidable hein, du monde entier.
Qtie qui ne s'en cache pas va être un peu le petit OpenAI français. Hein,
c'est ça.
Finalement.
C'est la promesse du début d'OpenAI. Hein, que...
ouais, exactement. J'ai lu que ça leur avait coûté 10 millions d'euros pour développer Moshi. Finalement, à côté des 300 millions qui étaient la mise de départ, c'est pas énorme. Et le résultat est assez bluffant, Claudia, non?
Oui, le résultat est bluffant. Et moi, j'ai envie de dire, on voit vraiment comment l'IA générative relance complètement la bataille des assistants vocaux. Parce que quand on va avoir un ton, voilà, les assistants vocaux, les Alexa, on aime bien ça, mais il y avait quand même un côté assez monocorde, assez robotique. Là, on arrive dans une toute nouvelle dimension. Et je pense que l'enjeu, quand même, pour eux, ce sera déjà, comme tu disais, il y a un enjeu de souveraineté, mais donc on espère voir quand ça arrivera une version française aussi. Et il y aura un vrai enjeu d'aller toquer à la porte aussi des pourvoyeurs des institutions, des médias aussi, du monde différent de la culture, pour essayer d'absorber aussi, ouais, via des partenariats, le plus de données, quoi.
Et puis, ouais, et puis très rapidement, pour entraîner cette voix, pour entraîner Moshi, en fait, c'est le jeu d'une actrice, en fait. J'ai parlé avec son papa hier, il me disait, j'ai un peu l'impression d'entendre ma fille qui répond à des millions ou des milliers de personnes en même temps, un peu comme dans le film Heure. Mais cette fille, elle est assez rigolote, parce qu'en fait, elle a, véritablement, c'est un jeu d'acteur, elle sait enregistrer avec différentes voix, différentes intonations, et c'est ce qui permet d'avoir ce ton si naturel.
Après, Fred, c'est la question qu'on se posait un peu hier, le modèle économique, ça va être quoi? Moshi, ça va être quoi? Est-ce que ça va être, un abonnement?
C'est assez malin.
Est-ce que c'est une vitrine technologique?
C'est-à-dire qu'ils disent, bon, on a voulu montrer ça pour avoir d'autres sponsors, hein, ils s'en cachent, ouais, pas, mais en même temps, il y a déjà des applications. Alors, ils fonctionnent en certaine manière avec Scaleway, mais aussi ça pourrait être utilisé dans des centres d'appel, par exemple d'Iliad, pour répondre de manière assez naturelle aux clients. Eux se défendent d'avoir tout but lucratif, hein. Ils veulent mettre ça à disposition. Okay. Et l'autre chose, parce qu'on leur a dit, mais vous êtes en train de nous faire ce qu'a fait GPT-4o il y a quelques mois. Eux, ils disent, ben nous, on met ça à disposition du grand public et on peut tester le service sur leur compte Twitter.
Et puis on est que sur la voix, quoi. ChatGPT derrière, ils ont aussi
bien sûr
des images et tout.
C'est
ça.
Beaucoup plus multimodal. Ouais.
Donc ils ont. Ouais.
Mais rappelons qu'ils ont développé ça à 8 en 6 mois.
Donc, ouais. C'est très bien de voir les utilités sociales quand même, ouais, de ce genre.
Et moi, j'ai dit juste pour oui, Claudia et Guillaume, hier, moi, ce sur quoi j'insistais aussi, c'est le côté, et qu'on retrouve chez Mistral, par rapport aux Américains, c'est le côté frugalité dans le développement. Enfin, on développe ce genre de choses, on essaie de se mettre des contraintes.
On est en mode start-up, vraiment.
Ouais, ouais. Et il ne faut pas, alors, la dépense, c'est clair, mais la consommation de bandes passantes, ouais, de processeurs et tout ça, et ça, c'est très français. Mistral, ouais, est très fort dans ce domaine, c'est ce qui fait leur particularité. Voilà, on n'est pas avec comme les Américains qui j'ouvre le placard, j'ai tout ça, allez, on y va. Là, et justement, ça c'est toutes les astuces et l'école mathématique informatique française de vraiment. On se met des difficultés, mais on aime travailler sous contrainte.
On va revenir sur Qtail juste après les infos, parce que il y avait une petite démo que je voulais vous faire écouter, parce que tu l'expliquais. Donc cette comédienne a enregistré sa voix pour après qu'elle devienne finalement la voix officielle de Moshi. Ce qui est dingue, c'est que en fait, Qtail a réussi une vraie prouesse technologique. Il suffit de parler 7 secondes pour qu'après on puisse générer avec votre voix et vos intonations n'importe quoi. On va vous faire écouter juste après l'info écho les propos de Xavier Niel qui ont été diffusés pendant cette keynote. C'est totalement bluffant. Je vous invite à rester avec nous. On vous raconte cette histoire juste après l'info écho, bientôt 20h30. À tout de suite.